Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Noël Aluzitu Kibambi.
Vingt-sept rebelles neutralisés, deux militaires des FARDC blessés, cinq armes et des produits pharmaceutiques récupérés par les forces loyalistes. Bilan des affrontements entre les FARDC et le M23 depuis mercredi jusqu'à hier vendredi aux alentours de la cité de Ntamugenga. Précision donnée par le porte-parole des opérations Sokola 2. Dans ce journal, les propos du lieutenant-colonel Guillaume Njike Ngaiko. Ils ont perdu la vie très tôt mardi dernier dans la ville de Bukavu. Les huit écoliers et leur chauffeur de bus décédés dans un accident de circulation ont été inhumés hier à Bukavu après des hommages rendus par la communauté au cours d'une messe de requiem célébrée en la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Les funérailles ont été prises en charge intégralement par l'État congolais. Professeur Joël Lissenga est l'invité de Radio Okapi ce matin. Il est l'auteur du livre « Le leadership politique et le sous-développement à RDC ». Il salue la symbolique de la cérémonie en mémoire du héros national Patrice Emery Lumumba, tout en fustigeant des dépenses exorbitantes engagées par le gouvernement. Ce genre de dépenses, selon lui, constitue une des sources du sous-développement à RDC. Bonjour à tous, mais avant tout, notez cet appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux membres du gouvernement. Il leur demande d'appuyer l'effort de guerre chacun dans ses attributions. Appel lancé hier durant le dernier Conseil des ministres. Selon le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, qui a lu le compte-rendu sur la chaîne nationale RTNC, il a encouragé le Premier ministre à réunir tous ses collègues pour l'évaluation de leurs actions et programmes dans les zones en conflit afin de contribuer efficacement, tant soit peu, à l'amélioration des conditions sociales des populations de l'Est du pays. Dans le dernier point de sa communication, Félix-Antoine Tshisekedi a fait allusion au phénomène de mariage précoce des jeunes filles qui s'observe de plus en plus. La ministre de la Justice a été chargée de faire respecter les lois en la matière sur toute l'étendue du pays. Par ailleurs, une politique de vulgarisation sur cette thématique doit être élaborée et vulgarisée, surtout dans les milieux ruraux, a indiqué le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Dans la province du Nord Kivu, des combats entre les FARDC et le M23 se sont poursuivis hier vendredi dans le groupement Bweza, territoire de Rutshuru, plus précisément à Rutiro, Ntamugenga et Nyabikona. Les sources coutumières à Rutshuru Centre affirment que des bombardements et des tirs à l'arme lourde ont ciblé certaines zones stratégiques occupées par les rebelles. Selon ces sources, l'armée a gagné d'autres espaces sur le terrain à l'issue des opérations offensives menées depuis mercredi à Bweza et Jomba. Le porte-parole des opérations Sokola 2 revient ici sur le bilan de ces opérations. Le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko est au micro de Denise Lukeso.
Dans la nuit du jeudi 30 juin au vendredi 1er juillet, les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé des offensives de grande envergure en profondeur des Ntamugenga contre l'M23 et leurs alliés du Rwanda. L'objectif pour les forces armées de la République démocratique du Congo, c'était de sécuriser la cité des Ntamugenga, chose qui a été faite. Comme bilan lors de ces opérations, d'abord, l'ennemi a été mis en débandade et nous avons noté 27 neutralisés du côté armée rwandaise et M23. Des armes ont été récupérées sur l'ennemi par l'armée loyaliste, et notamment 5 armes de type AK-47, un RPG-7, mais aussi de produits pharmaceutiques, une radio Motorola, des casques et plusieurs autres effets militaires made in Rwanda ont été récupérés par l'armée loyaliste. Bilan côté ami, des dévoyants militaires de forces armées de la République démocratique du Congo ont été blessés et qu'ils ont été tout de suite pris en charge par nos services spécialisés. Voilà au moins ce que pouvait retenir. Donc la cité des Ntamugenga est bel et bien sécurisée et c'était l'objectif à atteindre.
Restons au Nord Kivu pour parler de l'installation officielle hier vendredi du chef légitime de la chefferie de Bukumu par le gouverneur de province Constant Ndima. Le bon Kakungu Bigaruka règne sur le trône de cette chefferie après 27 ans de conflits coutumiers, à la grande satisfaction de la population des chefs coutumiers qui ont assisté à la cérémonie. Ils disent fonder leur espoir sur la venue de ce chef pour résoudre tous ces conflits divers qui rongent la chefferie de Bukumu. Denise Lukeso.
L'installation du Mwami Bakungu Lebon va résoudre beaucoup des problèmes que connaît la chefferie de Bukumu, espèrent les habitants de Niragongo, Mambo Kawaya.
Nous avons pris
des 35 villages qui sont en conflit de pouvoir coutumier. Tout ça, un intérimaire ne pouvait pas résoudre un conflit de pouvoir coutumier. Et si les 7 groupements, nous avons à peu près 4 groupements qui sont en conflit. Il y a tant de tueries qui sont dues au règlement des comptes. La population ici, elle est déchirée. Certains leaders qui exploitaient ces conflits comme leur argument.
Beaucoup de défis, notamment au plan sécuritaire, social et développement, attendent ces chefs. Placide Nzilamba, secrétaire technique de la société civile provinciale, parle des priorités auxquelles les Mwami Bakungu Lebon devaient se pencher en premier.
Il commence d'abord par asseoir le pouvoir coutumier jusqu'à la base. C'est la priorité parce que même des villages de notabilité sont gérés par des usurpateurs. En deuxième lieu, il devait procéder à la réouverture des routes de dessertes agricoles. Traiter aussi le problème des conflits fonciers qui font même des morts ici en territoire de Nyiragongo.
Rappelons que c'est depuis 1995 que la chefferie de Bakumu est dirigée par des intérimaires. Tout en remerciant le gouverneur des provinces, la société civile lui demande de poursuivre avec la résolution de tous les conflits coutumiers que connaît le Nord Kivu. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Parlons droit de l'homme toujours au Nord Kivu. 3 cas de décès dus à la torture à Butembo et dans le territoire de Lubero durant le premier semestre de cette année ont été enregistrés par le réseau pour les droits de l'homme REDO. Cette organisation de défense des droits de l'homme l'a fait savoir à Radio Okapi jeudi en marge de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture commémorée le 26 juin. Le REDO dit toutefois avoir noté une certaine amélioration du côté de la police grâce notamment aux différentes formations données par la MONUSCO. Mais les défis restent énormes du côté des FRDC et du Service national de renseignement ANR. Le coordonnateur du REDO encourage les victimes de torture, tant morale que physique, à saisir les instances judiciaires pour que les auteurs soient punis. Maître Muindo Wasiviniwa est au micro de Grâce Amzati.
C'est au niveau des lieux de détention ou au niveau des cachots gérés par les FRDC où on a eu à documenter, par exemple, à Butembo, il y a eu des cas de décès pour les 6 mois passés. Au niveau du service de renseignement à territoire de Lubero, il y a eu un cas de décès. D'ailleurs, pour les cas de Lubero, certains suspects étaient aux arrêts. Pour les cas de Butembo, l'auditorat était saisi. Bien sûr, nous sommes dans une zone opérationnelle où les services de sécurité doivent rester toujours en alerte à vue d'appréhender quelques suspects à raison d'enquête, mais malheureusement, la méthode de torture qu'ils utilisent, c'est quelque chose qui est contraire à la loi congolaise. Même au niveau international, la torture est vraiment prohibée. Nous encourageons les partenaires de INPOL, qui est une branche de la MONUSCO, qui a beaucoup aidé à ville de Butembo. Il y a quand même une amélioration, pas seulement pour les cas de torture, même pour d'autres faits qui étaient commis par la police. Si ces formations pouvaient être aussi organisées à l'égard des autres services, notamment les FRDC, même les services de l'ANR, ça pourra aider tant soit peu.
Dans la province voisine, le Sud Kivu, Dr Denis Mukwege a rendu un hommage à Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre du Congo indépendant. C'était à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC le jeudi 30 juin. Le prix Nobel de la paix 2018 s'est exprimé à travers un message rendu public à Bukavu jeudi soir. Les détails avec Emmanuel Elamejo Akabedi.
D'entrée de jeu, Denis Mukwege indique que la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC revêt un caractère très particulier. Cela avec le retour au pays de reliques de Patrice Emery Lumumba. 62 ans après son lâche assassinat, poursuit-il, Lumumba incarne toujours et plus que jamais l'idée d'une grande nation congolaise qu'il voulait forte, une et indivisible. En ces temps où notre pays est à nouveau agressé par les terroristes de M23 avec le soutien du Rwanda connu, en ces temps où nos soldats se battent au front pour préserver l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays, cet héritage sacré de Lumumba a une puissante résonance dans les cœurs des Congolaises et Congolais. Il nous invite à rester vigilants et ardemment mobilisés pour préserver l'intégrité, l'indépendance, l'unité et la prospérité de notre pays, poursuit Mukwege. Lumumba est un grand modèle à suivre pour notre génération et les générations à venir, conclut le message de Mukwege. Emmanuel Elamijo Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Nous vous le disions dans le sommaire, inhumation hier vendredi 1er juillet de 8 écoliers et leur chauffeur de bus décédés le mardi 28 juin dans un accident de circulation à Bukavu. La mise en terre a été précédée par une messe de requiem célébrée en leur mémoire à la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu. Les funérailles ont été prises en charge intégralement par l'État congolais. Emmanuel Elamejo Kabedi.
Désormais, ces écoliers et leurs chauffeurs reposent au cimetière de Ruzizi en commune du Banda. Leurs funérailles se sont déroulées sous une forte émotion de leurs parents, enseignants et camarades d'école. Dans l'oraison funèbre en la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu, le parlement des enfants de l'école SOS Village d'Enfants dit ceci.
Nous étions ensemble la journée du 28 juin 2022 et personne ne pouvait s'imaginer ni s'attendre à ce triste sort. Vous nous étiez très sympathiques et charmants tout au long de notre parcours scolaire et voilà, la mort est imprévisible. Vous nous précédez en séjour, intercédez pour nous auprès Père afin que votre brusque disparition affermisse notre foi et nous donne du courage et la vaillance dans notre vie. Que vos âmes reposent en paix.
Ces cinq garçons et trois fillettes ainsi que leur chauffeur du bus scolaire ont péri mardi 28 juin dernier dans un accident de circulation à Kadutu. Jusqu'en ce moment, les chauffeurs du camion qui les a écrasés demeurent introuvables. Emmanuel Elamijoua Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Insuffisance de contrôle et persistance de la fraude dans le secteur minier. Aucun négociant congolais ne peut vendre ses minerais auprès d'une entité de traitement sans l'intermédiaire d'un Chinois. La politisation du secteur minier artisanal sur les tableaux que peint la société civile du Lualaba du secteur minier artisanal de cette province. Elle l'a fait savoir hier vendredi ici à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Shadrach Mukad Mouai, porte-parole de la société civile du Lualaba, recommande au gouvernement, entre autres, l'opérationnalisation de l'entreprise générale de cobalt et le retrait des Chinois des zones d'exploitation artisanale. Shadrach Mukad le dit à Paul Matendo.
Envie d'apporter des solutions durables dans ce secteur, la société civile du Lualaba plaide pour la dépolitisation du secteur minier artisanal, le retrait de tous les expatriés dans les sites d'exploitation artisanale, la découverture des zones d'exploitation artisanale qui existent au profit des creuseurs et par-dessus tout, l'opérationnalisation de l'entreprise générale du cobalt. L'entreprise générale du cobalt a été créée par le gouvernement de la République pour la sauvegarde des activités relatives aux substances minérales stratégiques d'exploitation artisanale. Elle est pour nous une solution congolaise pour la maîtrise, la formalisation de la production du cobalt d'origine artisanale et la promotion de l'émergence des exploitants. C'est pourquoi il revient au gouvernement congolais de poser des actes concrets prouvant son souci réel de la recherche de solutions durables aux problèmes qui minent le secteur minier artisanal en RDC.
Toujours ici à Kinshasa, Eko Lumumba, c'est le thème d'une exposition pluridisciplinaire d'œuvres d'art qui a démarré le jeudi 30 juin et qui ira jusqu'à la fin du mois de janvier 2023 au Musée des arts contemporains et multimédia situé dans l'enceinte de l'échangeur de Limété. Cette expo accueille 43 œuvres de peinture, sculpture et performance réalisées par 23 artistes sous la direction de l'artiste peintre Franck Dikisonge Lesatoumoi, coordonnateur de la plateforme culturelle RD Congo. Eko Lumumba, comme son titre l'indique, est une expo qui s'inscrit dans le cadre des activités d'hommage à Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la RDC assassiné il y a 61 ans et dont la relique était inhumé le même jeudi dans le mausolée construit dans l'enceinte de l'échangeur de Limété. Franck Dikisonge Lesatoumoi parle du contenu de cette exposition au micro de Jean-Marc Matouaki.
Eh bien, l'on ne donnera pas Lumumba seulement simple figure Lumumba photo. Non, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons donner à travers cette exposition comme un chiasme, comme un alibi en ce qui concerne le pays ou le Congo, l'Afrique, que chacun puisse donner l'image qu'il avait de Lumumba après l'avoir entendu, après avoir entendu parler de Lumumba, de ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire Lumumba a impacté le monde. Mais s'il a impacté le monde, à partir de quel âge? Et si c'est à partir de cet âge, qui est-ce qui était le soubassement de ses pensées? C'était culturel. Donc, pour qu'un peuple soit fort, mûr, il faudrait d'abord que culturellement qu'il ait des bases.
Dans la province du Maniema, nous nous intéressons au métier des artistes coiffeurs. Ils sont visiblement nombreux dans les quartiers et au centre-ville de Kindu. Selon certains témoignages, ce métier qui fait vivre des familles semble pourtant négligé par plusieurs personnes et par les coiffeurs eux-mêmes qui le considèrent plutôt comme un passe-temps. Pour valoriser ce domaine, la Fondation David Ngongo Lumbulé organise un championnat urbain. 57 coiffeurs de Kindu ont été sélectionnés pour participer à cette compétition. Florence Kizalunga.
Il est vrai que le métier de coiffure fait vivre des familles comme on ne peut l'imaginer. Mawazo Boniface, marié et père de 4 enfants, les témoigne.
Ce travail m'aide beaucoup pour rehausser ma vie parce que jusque-là, j'ai continué à mieux vivre. Et à travers ce travail, il m'a donné même le courage de marier et d'avoir ces 4 enfants. Et ce métier de la coiffure me permet vraiment à faire presque toutes choses dans la vie.
Malgré ça, le président de l'association des coiffeurs du Maniema affirme qu'ils éprouvent des difficultés pour bien travailler.
Pour nous permettre de bien travailler, comme notre revenu est faible, nous demandons au gouvernement de réduire les taxes, car le métier de coiffure réduit le chômage dans la province du Maniema.
Cherchant à les valoriser, la Fondation David Ngongo Lumbulé va primer les meilleurs coiffeurs. On écoute les 7 et David Ngongo, son promoteur.
Je suis en train de vouloir dire à la face du monde que le métier de coiffure, c'est un métier. Parce que les demandeurs de ces services sont en train de minimiser ce métier-là. Nous sommes appelés à considérer les artistes coiffeurs comme les teneurs de l'emploi.
Kindo, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale. Un séisme de faible profondeur et de magnitude 6 a secoué tôt ce samedi le sud de l'Iran. Ce tremblement de terre a fait 5 morts selon le premier bilan diffusé par l'agence de presse étatique IRNA. En outre, 19 personnes ont été blessées suite à ce séisme qui a secoué la province d'Hormozgan. Le village de Sayekosh est le plus touché, rapporte l'agence France-Presse.
L'invité.
Vous le savez, la RDC a célébré le jeudi 30 juin le 62e anniversaire de son indépendance, une commémoration particulièrement marquée par la restitution de la relique de Patrice Emery Lumumba par la Belgique. Le gouvernement congolais a organisé 3 jours de deuil national en mémoire de Lumumba après une tournée de la relique au Lumumbaville, au Sankourou, à Lubumbashi et à Kisangani. L'auteur du livre Le leadership politique et le sous-développement à RDC est notre invité ce matin. Professeur Joël Isenga salue la symbolique de cette cérémonie en mémoire du héros national, tout en fustigeant des dépenses exorbitantes qui, selon lui, sont source du sous-développement à RDC. Il s'entretient avec Michel Kifindangwe.
Professeur Joël Isenga, bonjour.
Bonjour, mon cher Michel.
Le gouvernement a décidé de l'organisation d'un deuil national de 3 jours après la restitution de la relique de Patrice Emery Lumumba, héros national. Quelle en est votre perception?
Sur le plan symbolique, je dirais que c'est une très bonne chose parce que là, il y a une sorte de gratification psychologique et historique que le peuple congolais a tiré à travers cette cérémonie pour honorer les héros nationaux, mais il faut essayer de voir un peu plus loin, c'est-à-dire voir les contours de cette cérémonie, de la remise de cette relique que la Belgique a gardée pendant une 60aine d'années. Ce qui s'est fait en termes de millions de dépenses des ressources en allant jusqu'à saigner le trésor public dans un pays qui n'a pas des routes, des écoles viables, où il y a la faim, où il y a la guerre même. À l'Est, je crois que il y a de l'ostentation dans la façon de faire. On pouvait faire quelque chose d'assez modeste et ça pouvait produire ce que j'ai appelé ici la gratification psycho-historique. Mais faire de l'ostentation, c'est tomber dans ce que j'ai toujours appelé le leadership des sous-développements.
Dans votre ouvrage, vous affirmez que le sous-développement de la RDC n'est pas dû à l'impérialiste, mais plutôt au mauvais leadership du pays depuis l'indépendance. Que vous inspire cette remise de la dent de Patrice Emery Lumumba par la Belgique?
Bon, vous savez que je n'ai jamais partagé ce point de vue-là qui consiste à dire que la base ou la source de notre malheur, c'est l'Occident, c'est l'impérialisme. Cette théorie développée dans plusieurs travaux de recherche, dans plusieurs labos, moi je trouve qu'elle est révolue parce que la responsabilité est partagée. Parce que vous parlez de la mort de Patrice Emery Lumumba, c'est vrai que le complot était monté en Occident, dans les officines occidentales. Mais qui ont exécuté Lumumba dans la pratique? Ce sont des Congolais. Et avec ce que nous observons aujourd'hui, la mainmise de l'Occident est là, elle est cachée, mais les Congolais ont une grande part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement. On ne peut pas être pleinichard 62 ans après et chercher la cause de son malheur toujours ailleurs.
Comment aviez-vous apprécié la classe politique congolaise au moment de l'accession du pays à l'indépendance?
Bon, la classe politique, d'abord, il faut dire que sous la période coloniale, la Belgique avait son principe sacro-saint selon lequel pas d'élite, pas d'ennui. Et la Belgique n'était pas pour la formation de l'élite. Et l'élite politique congolaise était formée pratiquement dans l'État. Il y a eu des communautés religieuses qui ont participé à la formation de l'élite dans une certaine mesure, mais le grand lot de ce qu'on a eu à l'indépendance comme élite politique sortait des associations des évolués. Ces évolués présentaient un bagage un peu de technocrates. Ils n'étaient pas si médiocres et ils n'étaient pas aussi si génies. Ils ont réussi quand même à arracher l'indépendance, mais parce que ce qu'ils représentaient était la copie du colonisateur, alors ils étaient facilement manipulés. On s'est retrouvé avec des blocs. Il y a eu d'un côté les progressistes et les nationalistes. Ils se sont tirés dessus et le pays était à l'éclatement depuis 60, 64 jusqu'au coup d'état de Mobutu.
Alors aujourd'hui, 62 ans après l'accession de la RDC à la souveraineté politique, le pays demeure toujours économiquement dépendant de l'extérieur. Quelle potion magique proposez-vous pour changer la tendance?
Sans réfléchir ou en réfléchissant très profondément, je vous dirais d'emblée que c'est le leadership de développement opposé au leadership du sous-développement qui nous guide depuis l'accession du pays à l'indépendance jusqu'à ces jours. Il faut des hommes qui donnent l'impulsion, de dirigeants qui connaissent ce qu'ils font.
Professeur Joël Lissenga, je vous remercie.